Parlons un petit peu d'immobilier. On en a souvent discuté au cours des derniers mois parce que cette année a été très chaude pour l'immobilier. On assiste de plus en plus à des situations de surenchère, ce qui complique beaucoup les choses pour les futurs acheteurs. Et là, ça a été discuté hier, il y a le bureau du surintendant des institutions financières qui veut faire en sorte que ça soit plus difficile pour les acheteurs potentiels d'acquérir un bien. Et là, il y a ce qu'on, vous le savez peut-être pas, là, mais quand vous faites une demande de prêt hypothécaire, vous passez d'une certaine façon un test. La banque vous teste, en fait, elle teste votre capacité à rembourser votre prêt. Fait que là, c'est des calculs, c'est avant-calcul pour évaluer si vous êtes capable de vous payer la maison ou le condo que vous voulez acheter. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui disent, il est à peu près temps là, qu'on essaye de freiner cette surenchère. Et c'est vrai qu'augmenter les taux d'intérêt, par exemple, ça peut être une mesure. Mais parce qu'il faut regarder ça. On regarde ça, puis on se dit, OK, mais comment peut-on contrôler cette surenchère immobilière? C'est notre sujet de la prochaine demi-heure. On en discute tout de suite avec Daniel Adam. Il est courtier immobilier agréé. Il est également courtier hypothécaire. Bonjour, Daniel.
Bonjour Isabelle, ça va bien?
Oui, on va expliquer aux gens un petit peu c'est quoi l'histoire du test là et qu'est-ce que ça veut dire que cette nouvelle là, du bureau du surintendant des institutions financières, c'est pas une décision officielle, on a jusqu'au 7 mai je pense pour donner d'ailleurs notre opinion là-dessus, il invite les Canadiens et les Québécois donc à participer à la discussion puis éventuellement se faire une idée là-dessus, mais ça peut effectivement être une décision qui va être prise. Donc comment tu vois ça Daniel?
Bien, écoute, le test de solvabilité ou B20 ou en anglais stress test,
ouais.
C'est vraiment une barrière. En fait, c'est pour donner aux banques d'être certain qu'ils vont être payés quelque part parce que si le taux monte jusqu'à 4,79, qui est le taux qu'on qualifie actuellement, ça va jusque-là, les gens sont encore capables de payer. Bon, on ne souhaite pas qu'ils montent jusque-là. Donc, ils se donnent un bon coussin, on peut l'appeler comme ça, pour pouvoir être certain que les gens vont être capables de payer, même si les taux d'intérêt continuent de monter. On a vu depuis un mois, la plupart des banques, les banques virtuelles, les banques qu'on connaît, ont tous monté le taux d'intérêt quand même significatif. Là, on a un demi-point, presque trois quarts de point dans certaines institutions. Ça a quand même beaucoup bougé. Alors, le processus de consultation que le BSFI veut faire actuellement, qui va se dérouler entre le 1er et le 7 mai, donc consulte autant les institutions financières, les courtiers que le public pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que si on passe le 4,79 à 5,25, est-ce que ça va avoir un effet dissuasif?
Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, oui puis non. Dans le sens que nous, de notre côté, comme courtier hypothécaire, je suis multiprès, on est obligé d'utiliser, donc on va probablement être obligé de l'utiliser, on verra le 1er juin, le 24 mai en fait, le BSFI va donner son opinion et peut-être que dès le 1er juin, on va devoir utiliser ce nouveau taux-là. Alors oui, c'est pour qualifier des clients, il y a des clients qui se qualifieront plus, ça va changer vraiment la donne un petit peu à ce niveau-là,
ouais.
Mais je pense que le plus important là-dedans, c'est que si ça se fait, on va dire en catimini, ça veut dire oui, ça se fait, on y va. Mais c'est vraiment l'effet médiatique de tout ça qui va faire un changement. Puis on dit comment est-ce qu'on ferait pour arrêter cette flambée des prix, peu importe. Les médias ont beaucoup d'importance là-dedans. Si les médias ne font pas, n'en parlent pas à tout casser, parce que si on le voit là avec les chalets locatifs, les médias ont commencé à dire le chalet locatif, c'est ça, boum, ça partit. Il y a 3-4 ans, les chalets locatifs, on les donnait quasiment dans le Nord. Les gens ne voulaient plus de résidence secondaire. Bon, là, la COVID est arrivée et s'est installé plein de choses. Les gens ont décidé de se gâter, si je peux m'exprimer ainsi, de se faire des achats pour se faire du bien. Mais je dirais, moi, que le party est fini. Là, on s'achève la COVID, là, techniquement. Il y a des gens qui vont se retrouver avec des dettes parce que on le voit, là, beaucoup de gens ont acheté à crédit. Beaucoup de gens ont acheté avec des taux d'intérêt qui sont corrects, mettons, au moment où ils ont acheté, peut-être un an. Mais là, quand ça va commencer à changer ou à monter, puis qu'on va vouloir renouveler, on peut avoir peut-être bien des chalets qui vont être à vendre dans 2-3 ans. On verra.
Oui, effectivement. En même temps, bon, si tu regardes les prévisions des taux sur 5 ans,
Oui.
Écoute, le variable 5 ans, il est à 1.6, 1.7. Ça, j'imagine qu'on suppose que ça veut dire que les taux ne vont pas augmenter. Ils passeront, en ce moment, là, c'est 2,49 à peu près. Hein? C'est combien chez vous, chez Multiplan?
Ben, le meilleur taux ce matin, là, je n'aimerais pas la banque, c'est une des grandes banques du Québec, on est à 2,29. Mais avec certaines conditions. 2,29, si tu notes en dedans de 45 jours. 2,29, si tu fais un achat. Et non pas 2,29, si tu refinances. Si tu refinances, les taux ne sont pas les mêmes.
Ouais.
Les ratios sont pas les mêmes non plus. Mais le taux d'un an, qui est le plus bas que je vois sur ma grille ce matin, est à 1,84. C'est un terme d'un an. Mais le terme de deux et de trois ans est à 1,54. Est-ce que c'est significatif? Est-ce que ça veut dire que oui, on pense que ça va monter, puis en même temps, ça va peut-être redescendre? Est-ce que ça va se positionner? Mais le terme de 7 ans est à 2,24. Alors, le terme de 7 ans est moins élevé que le terme de 5 ans.
Donc, ça plaide pas pour une augmentation des taux au cours des prochaines années, ça?
Je pense que l'augmentation des taux, on en a eu une là, OK? Puis la seule affaire qui va peut-être continuer à en avoir un petit peu, tant que le taux directeur va rester ce qu'il est actuellement, ça ne bougera pas tellement. On voit les taux monter, c'est toujours drôle à dire, on voit les taux monter après la période derrière.
Ouais.
On dirait que les banques qui veulent nous donner le moins possible. C'est là quand le taux se met à monter, donc après la session derrière, les taux montent. Mais c'est ce qu'on a vu là, le dernier mois. Les taux ont monté. Donc, est-ce que ça va bouger? Je pense qu'on a pas mal bougé. Ça va continuer à bouger. Mais écoute.
Parce que je trouvais ça, tu sais, j'aime toujours faire des petites hypothèses pour savoir, pour calculer la capacité d'emprunt. Je faisais des tests, par exemple, ce matin. J'ai calculé le revenu annuel d'un ménage brut, là, un couple. Là. Les deux travaillent, ils font 50 000 chacun brut par année. Mm-hmm. On s'entend que c'est le salaire moyen, mettons, du Québécois moyen. Bon. En mettant une mise de fonds, ça fait donc 100 000 de revenus annuels avec une mise de fonds de 20 %. Là. J'évite la SCHL, je mets 20 %, donc 20 000. Le taux d'intérêt hypothécaire à 2,5 en ce moment, là, je l'ai mis à 2,49, mais mettons 2,5, avec des dépenses mensuelles d'environ 2 000 $ par mois, là, tu dépenses à peu près 24 000 par année. Là. J'essaie d'être quand même un peu frugal. Là. Ça fait une propriété que tu peux te payer de 355 000. Ça, là, c'est ce que cette famille-là pourrait se payer pour acquérir une propriété. Si tu montes le taux à 3,5, une augmentation d'1 % de taux, ça fait baisser la capacité d'emprunt de 355 000 à 320 000. Ouais. C'est quand même beaucoup, là. Et quand j'applique le 5,25 suggéré par le bureau... le bureau du surintendant des institutions financières, là, c'est rendu que c'est comme 271 000 ce que tu peux t'acheter. Autant bien dire, c'est pas cher, c'est un garde-robe.
Oui.
Fait que bref, ça vient de finir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se qualifieront plus. Là. C'est ça que ça veut dire, Daniel.
Chaque fois que le taux monte, c'est sûr qu'il y a des gens qui se qualifient plus. Chaque fois qu'on monte d'un quart de point, t'sais, des fois, on dit que c'est juste 12 piastres de plus par mois, mais des fois, le 12 piastres de plus par mois, quand tu es déjà topé, ça devient difficile. T'sais. Puis les cartes de crédit, nous, quand on fait des qualifications de clients, on prend les cartes de crédit ou les marges de crédit, puis on les met au maximum, puis on va chercher le maximum que ça pourrait représenter, parce qu'on sait bien qu'une marge qui est à zéro aujourd'hui, peu demain matin, qui est une barre aux 50 000, peu demain matin, monter à 50 000.
Ouais.
Et là, le client a un minimum de paiement de 3 ou 5 % à faire. Fait que les institutions financières, dans les qualifications qu'on doit faire, on doit en plus mettre le fait qu'une carte de crédit pourrait être maximisée, qu'une marge de crédit pourrait être maximisée. Fait que là, c'est l'endettement, là, ça pourrait arriver demain matin. Fait que on le voit, là, les gens sont impulsifs. Hein, ils ont besoin. Il fait beau, on vient d'acheter quelque chose, ça fait un an qu'ils se retiennent. On le voit, là, les achats impulsifs, malheureusement, quand on a vu les marges.
Mais tu sais, tu disais, la question des chalets, tu disais, il y a trois ans, c'était pas une denrée qu'on s'arrachait. Aujourd'hui, ça l'est. Mm-hmm. Tu disais peut-être que dans trois ans, les chalets, il y en a qui seront plus capables de se les payer. Ça, à cause du surendettement. Mais au niveau de l'offre et de la demande, moi, j'ai l'impression, écoute, je parle à beaucoup de gens, puis la première question que je leur pose, c'est, avez-vous l'intention de retourner travailler au bureau? Puis encore cette semaine, des gens qui sont déjà à du 4 jours semaine, ils sont rendus qu'ils se disent, ben moi, là, pas plus qu'une journée ou deux au bureau désormais. Là. Et plus ça va, plus les gens vont rester. Le chalet va devenir la résidence principale. Donc, pas sûr, tu comprends que ça soit fini, ça.
Je suis d'accord avec toi, Isabelle. Quand ça va être une résidence principale, ça va te toffer la route, si je peux m'exprimer ouais. ici. Mm-hmm. Mais quand tu vas rester à Montréal puis que tu vas devoir monter à Tremblant toutes les fins de semaine pour aller voir ton chalet, voir si tu t'es pas fait voler, défoncer ou je sais pas quoi, à un moment donné, faire le gazon à moitié fait, et c'est ça. C'est beau de cet site-là, ça occupe les gens.
Ouais.
Mais après un an ou deux, ouais. trois ans, peut-être que les gens vont commencer à s'y faire. Par contre, les gens qui ont des chalets, on va dire locatifs, qui font un peu du... Là, le Airbnb, c'est pas mal tombé. Mais on voit beaucoup de gens que je connais, beaucoup d'étudiants, qui avaient des chalets qui sont en location, qui sont débordés, c'est réservé même jusqu'à Noël de Saint-Cy. Tu sais, il y a presque plus de semaines de disponibles. Ça, c'est un autre marché. C'est des gens qui n'ont pas été capables de s'acheter un chalet, mais qui veulent vivre l'expérience chalet. OK?
Ouais.
Puis ils veulent sortir de la ville. Puis bon, donc ce côté-là, chalet locatif, oui, il y a beaucoup d'engouement. Oui, ces gens-là payent cher, surtout si les chalets sont qualifiés pour pouvoir être locatifs, parce que c'est pas partout. C'est pas toutes les municipalités dans les Laurentides qui vont permettre ça. Mmh. Et des municipalités qui changent aussi la donne, parce qu'ils le permettent depuis 6 mois, depuis plusieurs années. Puis là, du jour au lendemain, ils ont des plaintes de beaucoup de locataires, propriétaires autour d'un lac, mettons, pour prendre l'exemple. Là, la ville décide de passer un moratoire, puis de passer une nouvelle loi, puis là, fini les chalets locatifs autour du lac, mettons. Ben, les gens qui ont payé 400-500 000 le chalet, qui ne peuvent plus le louer autrement qu'à l'année ou à la saison, c'est plus le même paiement.
Non, c'est ça.
Peut-être
c'est ça.
Qu'on veut voir s'en débarrasser. Fait que c'est pour ça que je dis, on va voir comment ça va aller. Oui, il y a des gens qui vont vouloir garder leur résidence secondaire, puis ça, c'est correct. Puis ça, certains vont en faire une résidence principale, puis là, ils vont les garder, c'est certain. Mais ceux-là qui ont acheté ça sur des coups de tête, quasiment. Là, peut-être qu'ils vont trouver ça moins drôle, là, surtout si les taux d'intérêt se mettent à monter. Puis quand ils vont être le temps de refinancer, peut-être que le taux dans 5 ans, il n'y aura peut-être pas beaucoup bougé, mais il y aura peut-être d'autres choses qui auront bougé, puis qui feront que, justement, si les taux de qualification changent, quand on va faire le refinancement, c'est plus les mêmes taux de refinancement, c'est plus les mêmes ratios qu'on parle de ABD et ATD, l'amortissement brut de votre dette ou l'amortissement total de toutes vos dettes. Ces ratios-là vont changer. Mmh. Actuellement, dans un refinancement, on est à 32-40, tandis que quand on fait un achat avec la SCHL, on est à 35-42. Ça n'a pas l'air une grosse affaire, mais tu sais, un 2 ou 3 4 % de moins de capacité.
Quand tu dis 32-40, c'est pourcent de ta. C'est ça, hein? De
ouais,
tes revenus.
De tes dettes, là, ouais, c'est ça. Des dettes de base, là.
Ouais.
Fait que ça implique beaucoup, tu sais. Nous, ici, au Québec, on est encore chanceux, entre guillemets. Ah, ouais. Le droit de dette de ça. Là. On paye des bons prix, là. Si on part à Vancouver et Toronto, qui, des fois, sont quasiment obligés d'aller dans des ratios de 50% pour pouvoir se procurer une propriété ou de mettre énormément de ton temps.
Ouais. C'est sûr qu'il y a beaucoup de questions qui vont être posées. Plus ça va aller, plus les d'ailleurs, je pense que les gens qui ont fait des tentatives pour s'acheter une propriété cette année l'ont vu, l'ont appris un peu à l'air des pans. C'est que les banques deviennent plus frileuses pour prêter, vont charger des taux plus importants, tiennent compte de ratios aussi plus élevés pour évaluer les capacités d'emprunter. Ça veut dire que les clients, ils doivent mettre plus de cash pour acheter. Quand t'en as pas, là, tu penses aux jeunes familles, ça va devenir difficile encore plus. Après, bon, comment contrôler la surenchère immobilière? On va aller à la pause là-dessus. On est en compagnie de Daniel Adant, qui est courtier immobilier agréé. Il est courtier également hypothécaire chez Multiprêt. Dites-moi, comment vous voyez tout ça? Est-ce que vous avez essayé, vous, de passer à la banque, puis la banque vous a dit ça sera pas possible? 514-790-9850 pour vos témoignages. Puis si vous êtes en ce moment en train de vous chercher une propriété, c'est sûr qu'on veut savoir si vous faites face toujours à cette fameuse surenchère. Il y en a qui m'écrivent, qui disent « Ouais, mais c'est à la faute des courtiers immobiliers s'il y en a de la surenchère. » J'imagine que Daniel va nous dire ce qu'il en pense. Tout de suite après la pause, vous pouvez également faire le 1-866-790-9850. On est en compagnie de Daniel Adam, qui est courtier immobilier agréé, courtier hypothécaire. Effectivement, bon, on disait les banques vont être plus frileuses, vont poser plus de questions. Il y a beaucoup de gens aussi qui me disent « Ben, la surenchère, Daniel, j'aimerais savoir ton opinion là-dessus. » C'est beaucoup les courtiers immobiliers qui la créent. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Bien, c'est difficile de... C'est pas nous autres qui signent les offres d'achat. Hein. C'est l'acheteur qui va décider jusqu'en bout de ligne combien il veut payer. Quand la propriété est à vendre, je prends un exemple, j'en ai une devant moi, à Blainville. Okay? J'ai un client qui cherche dans ce secteur-là, il a un budget de 350 000. Il me dit, Daniel, je viens de voir ça à Blainville, 325 000, je voulais aller visiter. J'appelle le courtier, 70 visites de programmer en fin de semaine. On s'est vendu, OK? Il y a eu 70 visites, il y a eu 15 offres d'achat, OK? Ça s'est vendu 413 500. Il demandait 325 000. C'est quand même 88 500 au-dessus du prix demandé. C'est pas le courtier qui a signé 88 500 en haut du prix demandé. Tu sais, un client, il y avait 15 offres de choix sur la table. Oui, à un moment donné, il y a un stress, on veut une maison, on veut déménager, on n'a pas le choix, on veut s'en aller de la ville, peu importe. Et on paye ce prix-là. Puis c'est pas, il n'est pas unique, cette maison-là. Dans bien vite, il y en a un autre. La même chose, il demandait 359, c'est vendu 407 000.
Ouais.
C'est dans 5 jours, c'est parti. Tu sais, les gens, ils mettent en vente le vendredi, les visites le samedi, dimanche, puis lundi soir, les offres d'achat, puis c'est fini, tu sais. Fait que les gens, ils stressent. Moi, quand je faisais à temps plein, là, dans l'immobilier, on visitait, puis on avait suivi que ça, là. Moi, ça fait 33 ans que je fais de l'immobilier. Fait que j'ai vécu ça des années où il y a eu 6, 7, 8, 10 offres en même temps. Puis les taux d'intérêt n'étaient pas à 2, là. Ils étaient à 10, 11, là.
Mm-hmm.
Ma première maison, j'étais à 15, puis j'ai même eu une deuxième à 22 pendant 6 mois parce que je rénovais.
Aïe, aïe.
Des gens, là, qui ont eu 2 puis qui pleurent. Moi, j'ai eu du 22. C'est comme.
Ah, mon Dieu.
C'est un autre marché, là.
Ouais, ouais.
Mais on est là-dedans, actuellement.
Ouais. On a Caroline au bout du fil qui se désespère d'acquérir une propriété. Bonjour, Caroline.
Bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Écoute, moi, je suis enseignante. Mon mari est infirmier. Et on a quand même 2 bons salaires. C'est comme rendu même impossible. On habite tous les deux à Montréal, on travaille les deux à Montréal. C'est comme impossible d'acheter à l'intérieur. Même la première couronne, c'est bien trop cher. Les surenchères sont des fois presque 100 000 $ de plus.
Mm.
Notre solution, c'est qu'on va peut-être changer de région où les maisons sont encore abordables.
Et là, vous regardez pour quelle région?
Ben peut-être l'Estrie, il y a des endroits où c'est encore abordable. Peut-être des régions, peut-être Trois-Rivières ou ailleurs, mais plus loin de Montréal pour avoir une maison d'une grandeur raisonnable, mais avec un prix raisonnable aussi.
Mmh. Est-ce que vous vous êtes préqualifié déjà à la banque?
Non, on n'a pas fait cette étape-là. On n'est pas super inquiet pour ça, mais on ne veut pas non plus avoir une maison qui on va tenir tout notre argent dans la maison, mais on ne pourra plus vivre, puis on ne pourra plus voyager parce que tout l'argent va aller dans la maison. C'est pas ça qu'on veut, là.
Merci, Caroline. Bon, bonne recherche. Eliane est avec nous. Bonjour, Eliane.
Bonjour.
On vous écoute?
Ben écoutez, moi je viens d'acheter une maison à Granby et je voulais juste renchérir sur le fait qu'effectivement il y a des règles dans les courtages qui stimulent les enchères. Parce que vous voyez, nous on a fait 5 offres d'achat avant celle-ci.
Mm-hmm.
À chaque fois qu'on a fait notre offre, on était les seuls en liste. La maison des fois était en vente depuis plus d'une semaine. Et quand on faisait notre offre, le courtier a le droit, lui, de renvoyer un courriel ou un petit mémo à tous ceux qui l'ont déjà visité ou qui ont déjà dit qu'ils étaient intéressés, même s'ils n'avaient pas fait d'offre, pour dire, ben voici maintenant, vous voulez l'avoir, ben allez, allons-y.
Oui. Ça, c'est intéressant. Daniel Adam, là-dessus, il y en a qui disent, il faudrait peut-être justement contrôler la surenchère en imposant plus de règles aux courtiers immobiliers.
Ben, dans les règles du courtier immobilier, quand moi je suis courtier et j'ai visité une propriété, OK?
Ouais.
Puis mes clients disent on est intéressé, mais on va en voir d'autres. OK? Fait que
ouais.
Bon. Fait que là, je dois appeler ou consulter ou envoyer un texto à mon courtier inscripteur en disant garde-moi en mode collaborateur, collaboration.
Ouais.
OK? Autrement dit, si tu as un offre d'achat sur cette propriété-là, laisse-le-moi savoir.
Mm-hmm.
OK? Le courtier inscripteur a l'obligation en ce moment-là de me contacter. OK? Bon. Alors, je suis dans le système, fait que s'il ne me contacte pas, moi, je peux faire une plainte contre lui parce que j'avais des clients intéressés, puis il l'a vendu lui-même, mettons, rapidement, puis on l'a pas vu passer, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que donc, il y a une obligation au courtier de faire des suivis. Bon, tant qu'à faire des suivis, puis peut-être avec le point d'Eliane, tant qu'à faire des suivis avec un courtier, ben il fait un suivi avec tous les courtiers qui ont visité. Tu sais, ça fait une semaine que c'est avant, il y a peut-être eu un bloc de visite, comme j'ai vécu là, sur des propriétés. Puis là, le courtier, ben, il y a 10-12 courtiers qui ont visité ou demandé de l'information. Et, tu sais, ils travaillent pour le vendeur, ils ne travaillent pas pour l'acheteur, le courtier. Okay? C'est son mandat, c'est de vendre la propriété le mieux pour son client. T'sais. Alors, si pour le mieux pour mon client, c'est d'appeler ceux qui ont visité et de dire, écoutez, on a quelqu'un d'intéressé, êtes-vous toujours intéressé?
Mm-hmm.
Ben, c'est bien travaillé pour son client. Est-ce que ça crée des surenchères? Ça crée des offres, peut-être. Puis après ça, la façon dont un courtier fonctionne, c'est que si je reçois une offre d'achat, puis j'ai un autre client qui me fait une offre d'achat, j'ai un peu l'obligation de dire à l'autre, écoute, j'ai reçu une offre, veux-tu bonifier? Et là, si lui bonifie, je rappelle l'autre, la deuxième, je dis, le premier a bonifié, veux-tu bonifier? Fait que là, oui, il y a un échauffement, ça commence, tu sais, on peut pas dévoiler les offres ne peut pas dire c'était
combien. Mais il y a aussi le principe maintenant, c'est devenu monnaie courante. Merci Eliane d'ailleurs hein, de votre question. On va faire du mélange un petit peu là-dessus. Encore un petit peu, Daniel. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, tu ne peux plus visiter quand tu sais les gens avant disaient « moi je suis disponible le vendredi à 5 heures ». Ouais. Non, là maintenant, c'est dans deux semaines, tout le monde en même temps, entre midi et 4, on prend les offres à partir du lendemain 17 heures. Là, on voit ça maintenant. Ouais. Fait que là, c'est là où tu arrives puis tu as comme plein d'offres. Et là, tu fais juste pick and choose. Tu choisis celle qui te paraît la plus avantageuse, ce qui force les acheteurs potentiels à faire partie du système de la surenchère. Alors qu'avant, il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, avant la COVID, c'était tu faisais ton offre, tu visitais quand ça te semblait intéressant, quand tu pouvais, puis là, tu pouvais faire une offre illico. Puis là, la personne, à partir du moment où tu avais une offre déposée, là, les autres, il fallait qu'ils attendent la réponse à cette offre. Alors que, et c'est pour ça que je dis, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas, il y en a qui disent qu'il faudrait que les surenchères soient plus transparentes aussi. Il n'y a pas quelque chose là à clarifier ou à, parce que là, maintenant, sûr qu'il n'y a rien qui empêche ça, là.
Non, il n'y a rien qui empêche ça, puis c'est comme je dis, c'est le travail.
Tu mises à l'aveugle, dans le fond. C'est comme un gamble. Tu ne sais pas si ton offre.
Tu ne peux pas partager l'information avec tes collègues. Quand j'ai commencé en immobilier, puis j'ai vu que ça souvent, on s'assoyait tous autour de la table, les courtiers. Puis on sortait nos offres un en arrière de l'autre. Fait que le courtier A, B, C, D, tout le monde savait quel prix à qui a offert quoi. T'sais. Fait que il y avait des courtiers un peu plus vimeux qui rentraient, arrivaient en retard, mettons, pour les présentations d'offres, puis qui avaient dans leur sac trois offres d'achat.
Oui, je me souviens de cette époque-là. Ouais.
Hein? J'ai vu que ça, moi, dans les années, il y a longtemps, les années 90. Fait que là, après ça, l'OASIC, qui s'appelait autrefois, a décidé d'arrêter ça. Parce qu'à un moment donné, là, c'est comme tu fais ce que tu veux. Tu arrives le dernier, tu dis moi, je vais arriver en retard, puis j'ai deux, trois offres, puis je fais juste rentrer 1000 au-dessus de la dernière, plus, puis voilà, j'ai gagné. Mais est-ce qu'on serait mieux de s'en aller dans un système de vente aux enchères, comme on voit un peu aux États-Unis, qui se fait pas beaucoup ici au Québec, qui se voit un peu dans l'Ouest, on voit ça. Les gens viennent tous devant la maison et ils disent « Bon, mais là, on va aux plus offrants. » Puis ça aussi, ça crée, parce que moi, j'ai acheté aux enchères aux États-Unis des propriétés, puis je m'étais mis un top, puis j'ai dit « Bon, on ne parle pas de maison très dispendieuse, on parle de 50 000 là, dans le temps, en 2012.
Oh, mon Dieu.
Mais
ouais.
Moi, j'avais arrêté à 50 000, une maison qui ne valait pas plus que ça, puis parce qu'il y avait du monde aux enchères sur place, on montait jusqu'à 75. Mais à un moment donné, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit « L'avais-tu toujours à 50 parce que le gars 75 est débarqué. »
Oui, il passait pas à la banque, là, c'est ça, ouais.
Ben, il fallait payer cash dans ce temps-là, c'était de finances, là, c'est un peu particulier. Fait que, est-ce qu'on devrait revoir un peu la façon dont on fait des affaires? Là, on vit une situation très particulière.
Ouais.
Est-ce que dans 4-5 ans, on va revivre ça? Peut-être pas. Est-ce qu'on fait une correction de marché immédiatement de façon dont on produit nos offres d'achat? C'est un débat. On n'est pas sorti du bois. Si on
a il y en a qui disent peut-être qu'une façon de sortir du monde du marché de la spéculation, c'est le fait de taxer le gain en capital sur la résidence principale. Moi, personnellement, je suis fortement opposé à cette mesure parce que je trouve que c'est à peu près la seule chose à part le REER. Puis tu sais, le REER, quand la bourse fait des sursauts, c'est comme là aussi, là, je veux dire, c'est comme si tu confies toute ta retraite à quelqu'un qui est pas ici, que sur lequel tu as à peu près pas de point, tu sais. Fait que bref, tu sais, autre gamble s'il en est un. Fait que la seule chose qu'on peut faire, c'est d'être assez intelligent pour essayer de se mettre de l'argent de côté puis s'acheter une propriété, même la plus petite possible, parce qu'au moins, tu as de l'équité. C'est ça le nerf de la guerre. Mm-hmm. Mais là, si en plus on taxe ton gain en capital sur la résidence principale, là, à un moment donné, on va faire quoi, là?
Ouais. C'est comme il y avait la fragmentation des revenus, puis mon nom voulait enlever ça. Ça a fait tout un « what? » C'est arrêté.
Mais toi, t'en penses quoi de la taxe sur le gain en capital?
Ben, je pense que c'est... moi, non.
Ouais, c'est ça.
Je suis pas d'accord avec ça.
Il restera plus rien aux gens, là. Ça va être quoi, là? Ça va être quoi ton incitatif à économiser?
Ouais. Ton bas de laine qui est à maison, en fait. Quand tu prends ta retraite, je prends des gens qui ont été 25-30 ans dans une maison qui vendent, puis leur bas de laine, c'est la maison qui vend, puis ils s'en vont dans une maison de retraite. Du jour au lendemain, ils se retrouvent avec un gain en capital de 400 000, mettons. Puis là, ils tombent dans la braguette d'impôts de 52%. Et ils vont pas trouver ça drôle parce que la résidence à 3-4 000 par mois, ils sont pas là longtemps. T'sais. Fait que c'est ça là, qui est plate. Là, t'sais. Peut-être oui, dans le côté spéculatif, quand tu achètes, tu revends, pas de problème. Taxez-moi ça, j'ai aucun problème. Ça se fait.
Ouais, sur les flips, là, par exemple. Peut-être ouais, que peut-être le mettre sur des gens qui si t'as pas vécu toi-même dans la maison ou mais ça le dit, résidence principale, normalement, t'es supposé vivre là. Fait que,
Mais tu sais, vivre là combien d'années, combien de temps? Est-ce qu'il y aurait une subtilité à faire là si t'as pas vécu? C'est comme le refinancement. Quelqu'un qui paye une maison cash puis veut refinancer après 6 mois, il n'y a presque pas de banques qui font ça. Les banques B, mais pas les A. Ouais. Fait qu'ils attendent un an complet parce qu'ils ont peur au blanchiment d'argent. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Ouais. Est-ce que ça serait une donne de dire, bon, faut être de la maison au moins pendant un an personnellement? Parce que là, on veut les maisons monter de 8, 9, 10 %. Fait que tu te dis, oui, OK, la maison de 300 000 va valoir 350 000 l'an prochain. Mm. J'ai peut-être un 50 000 de gain. Bon, peut-être un courtier payé où je vais en vendre directement puis je vais faire 50 000. Il y a peut-être là qu'il y avait une petite ouverture, peut-être, parce qu'on fait un peu...
Mais c'est parce qu'en ce moment, il y a effectivement des gens qui achètent des propriétés qui remettent en vente le mois d'après, sans avoir mis une scène, même pas de peinture.
Non.
Ils n'ont même pas peint.
Écoute, j'ai vécu ça en 88, quand j'ai commencé en immobilier. Les gens achetaient en janvier, remettaient en vente en mars, puis en vendant en juillet. Les maisons se vendaient 3 fois dans l'année. C'était une bulle spéculative, les 87-88. C'est là que j'ai acheté.
C'est fou. Daniel Adam, merci beaucoup. C'est toujours pas si fascinant. Moi, je continuerai jusqu'à midi. Mais on a un autre sujet. On aura l'occasion de s'en reparler parce que ça, c'est intéressant. Puis j'encourage les gens à suivre ça. Le régulateur bancaire fédéral, donc je vous le rappelle, mène des consultations. Au cours du prochain mois, vous pouvez lui faire part de vos commentaires d'ici le 7 mai. Et c'est possible, on verra ça. En tout cas, s'il y a des changements, ça serait en vigueur à partir du 1er juin. On s'en reparlera de toute façon. On aime ça, aujourd'hui, de tout ça. Merci beaucoup, Daniel Adam.
Oui.
Merci bien. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Albert Mondor, horticulteur, va répondre à vos questions. Restez là, tout le monde.